Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à vous tous, membres du mouvement Ezra International. Bonjour à vous tous, intercesseurs de Dieu. Bonjour à vous tous, adorateurs en esprit et en vérité. Bonjour à vous tous, les saints du Père. Vous tous qui êtes vraiment et profondément intéressés et interpellés, désireux de voir le règne du Père venir sur la terre, sa volonté se faire sur la terre comme dans les cieux. Vous tous qui œuvrez profondément dans votre intimité, dans vos ministères, dans vos appels, dans vos terreaux, afin d'être partenaire du Père pour l'accomplissement de ses desseins. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. En ce jour, au travers de ce message, où j'ai reçu profondément en moi de conduire tous ceux qui sont attaché à ce ministère des missions à Christ, héritage du royaume, du mouvement Ezra et des rencontres des femmes de foi et d'action, de les conduire dans un processus de percée en cette saison. Spirituellement, nous entrons dans une saison de fin d'année biblique et de commencement de la nouvelle année biblique. Et nous dirigeons comme ça vers pour célébrer la Pâque. Et je reçois du Seigneur vraiment que cette saison est une saison particulière. Particulière pour beaucoup de pays qui se trouvent dans un tumulte sourd. Mais particulièrement cette saison, le Seigneur nous met en cœur le Cameroun. Donc je reçois profondément, moi, et c'est l'objet de cet audio, de former et de clarifier un peu la situation que je reçois pour amener tous ceux qui ont le Cameroun à cœur en fardeau, tous ceux qui ont les nations en fardeau, tous ceux qui désirent que le règne de Père vienne vraiment, à être imprégné, à être comme ça, spirituellement, impliqué dans un processus de percée, travers lequel le Seigneur veut faire quelque chose. Je reçois cela depuis au moment maintenant, depuis la fin de la première édition des rencontres de femmes de foi et d'action, qui s'est déroulé au Cameroun au mois de décembre 2017. Et j'avais déjà vraiment compris en moi que très vite le Seigneur voulait passer à une autre étape. Et ayant reçu les dates de la deuxième édition de séminaire qui devait faire suite à la célébration de la Pâque, le Seigneur l'Esprit de Dieu m'a vraiment mis à mon cœur cette préoccupation par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun, qui est un véritable fardeau pour nous tous en tant qu'intercesseurs. Nous savons que nous nous disposons afin que le règne de Père se fasse et que seule sa volonté se fasse. Donc, durant tout le long de ce message, nous partagerons sur ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ce qu'il m'a révélé au travers de la parole de Dieu et ce qu'il nous demande de faire dans la prière. Peu importe pour nous les personnes ou les apparences physiques, nous seuls le domaine spirituel compte pour nous. Vous savez, mes frères et sœurs, que la parole nous dit et nous le croyons, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous agissons en esprit. Et depuis notre royaume, le royaume des cieux, auquel nous appartenons. Ne perdons pas notre identité. Peu importe les individus, peu importe les personnes, peu importe qui a raison, qui a tort aux yeux des hommes. Nous seuls, la vérité nous intéresse. Et la vérité, seule l'Éternel la connaît. Et seul l'Éternel sait ce qu'il a disposé et prévu pour ce pays. C'est pour ça que moi, je reste convaincue. Et c'est en ça que l'Esprit de Dieu m'a toujours initié. Nous devons prier selon ce que l'Esprit nous conduit à prier en des saisons précises, pour des moments précis. Ce n'est pas le désir de nos cœurs qui compte, notre volonté aux yeux de ce que nous voyons, mais c'est la volonté du Père qui doit compter pour nous. Et seul l'Esprit du Père peut mettre ça en cœur pour nous. Donc c'est ça que nous voulons partager aujourd'hui, en nous appuyant sur la parole et ce que le Seigneur veut véritablement faire. Nous disposer, parce que le Seigneur veut les personnes qui montent et qui se placent à la brèche afin de lui permettre de déverser son flot et d'agir selon sa volonté. Alléluia. C'est ce qui doit nous intéresser. Nous devons nous disposer à nous engager dans ce processus de percée. Nous devons nous disposer notre temps, nous engager dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Alléluia, comme nous l'avons apprise, dans cette marche, dans cet itinéraire qui nous conduit au cœur de Père, afin de le laisser lui-même, par ses anges, par son esprit et par la puissance de notre Seigneur Jésus, déverser son flot, disposer de ce qu'il veut disposer. Alléluia. Nous savons tous la situation sourde qui prévaut au Cameroun, les tenants, les aboutissants. Moi, je disais à quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation sourde qui n'est pas pour le bien, ni du pays, ni des populations, ni des gens. Dieu a un plan merveilleux pour sa création, pour cette prière. Et ce qui doit nous intéresser, c'est que vraiment le plan du Père se mette en place, même par rapport à ce pays, le Cameroun, qui est aujourd'hui notre préoccupation. Alléluia. Lors du la première édition des rencontres de femmes de foi et d'action, il y avait une bannière qui disait « Cameroun à Jésus ». Si nous voulons vraiment que ce soit à Jésus, nous devons nous engager dans ce processus afin que l'Éternel Dieu notre Père et son armée céleste entre en opération et établisse son plan merveilleux, établisse sa volonté dans nos vies et dans nos nations. Alléluia. Il a des plans de bonheur et non de malheur. Il a des plans qui surpassent les plans humains. Les hommes ont des plans égoïstes et limités. Même lorsqu'ils pensent qu'ils sont dans leurs droits et qu'ils ont raison, il est important que nous disposons afin que ce soit le plan de l'Éternel, de notre Père, par la puissance de son Esprit, qui s'impose dans nos vies, dans nos nations. Alléluia. Donc, en cette saison, le Seigneur désire que nous vraiment rentrons dans un processus de jeûne et de prière et que nous commençons cette marche de percée par un jeûne d'Esther. Quand j'ai reçu ça, vraiment, je me suis dit, les jeûnes d'Esther, on entend parler, on sait que ce sont des jeûnes de 3 jours, ce sont des jeûnes à sec, sans eau, sans manger, sans boire. Mais à quoi ça consiste vraiment? De quoi s'agit-il vraiment? Moi, je dis toujours dans mes messages, vous savez, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la parfaite révélation de quelque chose, on agit dans l'obscurité et pas dans la lumière. Nous devons chercher la clarté de toutes choses. Je dis oui, Seigneur, je reçois qu'il faut que nous entrons dans ce jeûne d'Esther. Ensuite, nous devons prendre un jeûne de Daniel. Et ces différents jeûnes dans la Bible n'ont pas les mêmes buts, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont même pas les mêmes causes, les mêmes motivations. Donc il est important que nous nous rapprochions pour comprendre vraiment le contexte, les motivations, les objectifs et les buts poursuivis, afin de s'imprégner vraiment du contexte, afin que notre jeûne soit porteur. Parce que pour comprendre même pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui nous est demandé de faire? Alléluia. Et nous allons recevoir ça à travers vraiment le partage que nous allons faire ce matin. Parce que c'est cette démarche que j'ai eue avec le Père. Je veux, Père, engager véritablement ce jeûne d'Esther en cette saison. Dis-moi ce qu'il faut faire. Donne-moi les éléments qui vont me permettre de remplir mon temps de louange, ma prière, ma pensée, mon esprit pendant ce temps. Et il m'est ainsi donné vraiment de reprendre le livre d'Esther, de le reparcourir afin que le Saint-Esprit ouvre mon esprit et augmente ma connaissance. Ouvre mon esprit et me révèle certains éléments à savoir. Amen. J'avoue, mes frères, mes sœurs, que ça m'a tellement édifié. J'étais tellement édifiée dans ce que j'ai appris encore en parcourant le livre d'Esther, dans ce contexte-ci, que je ne pensais pas le mettre en site, en fait. Je pensais juste en partager comme ça avec quelques personnes. Mais cette nuit, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'en faire un message audio, de le mettre sur le site, afin que toutes les personnes, où qu'elles soient, sympathisantes du mouvement Ezra, du réseau des saints, alléluia, des rencontres des femmes de foi et d'action, tous ceux qui sont connectés dans les prières matinales, s'en imprègnent afin de pouvoir vraiment s'engager en connaissance de cause, en connaissance des motivations et des objectifs dans ce jeûne d'Esther, au temps convenable, au temps marqué par Dieu. Alléluia. Voilà le but de ce message. Je partageais aujourd'hui au cours de notre prière matinale avec certaines dames du réseau que j'étais vraiment très réconfortée et très encouragée par le site www.héritageduroyaume.com. Parce que quand je regarde le nombre de connexions, puisqu'il y a un compteur sur le site, le nombre de connexions qui s'affichent tous les jours, qui augmentent tous les jours, de personnes qui connectent à ce site, qui le regardent, peu importe le temps pendant lequel ils le regardent, il y a ceux qui le regardent longtemps, il y a ceux qui le regardent un peu. Je suis réconfortée parce que je me dis, ce qui est sur le site, même si ça fortifie une seule personne, même si ça permet à une seule personne d'être édifiée par rapport à son appel, gloire à Dieu, ceci t'en vaut la peine. Alléluia. Et j'étais surprise quand je regardais les statistiques de voir les différents drapeaux des pays qui sont affichés et à partir desquels les gens connectent sur le site www.héritageduroyaume. Tu vois le Malawi, la Norvège, les États-Unis. Oh mon Dieu, la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Et je me disais, waouh Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons prendre le temps aujourd'hui, mes bien-aimés, en Christ, de reparcourir le livre d'Esther et d'avoir encore une profonde révélation en ce qui concerne ce jeûne de 3 jours. De quoi s'agissait-il? Dans quel contexte ça se passait? Ça consistait à faire quoi? Quand? Comment? Où? Avec qui? Quel en a été l'impact? Alléluia! Et ça va nous permettre, ça s'est passé au temps du roi Assyrus, oui. Ça s'est passé dans une nation, oui. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament, oui. Nous sommes aujourd'hui en Christ. Mais nous sommes toujours dans des nations. Et nous allons transposer ça, nous, aujourd'hui, dans notre marche en Christ. Amen. Parce que notre Seigneur Jésus est venu accomplir certaines choses dans nos vies. Mais l'Ancien Testament nous enseigne dans le détail comment certaines choses, certaines dispositions spirituelles sont faites. Comment certaines choses que Dieu dispose comme mode d'action ont été expliquées à son peuple d'être faites. Alléluia. Moi, j'ai été vraiment édifié, je vais partager ça avec vous. Prenons le livre d'Esther. Le livre d'Esther vient après le livre d'Esdras. Le livre de Néhémie. Et avant le livre de Job. Le livre d'Esther, c'est un livre qui raconte la destinée d'une jeune fille. La destinée d'une jeune fille orpheline qui a été adoptée par son oncle Mardoché et qui a eu l'opportunité d'être présentée parmi les prétendantes à la place de reine dans le royaume, dans un royaume babylonien, le temps du règne du roi Assyrus, qui est un descendant du roi Nebuchadnezzar. Nous savons ça. Les premiers chapitres du livre d'Esther, nous n'allons pas beaucoup nous étaler dessus. Nous savons qu'il y avait une reine avant, la reine Vashti, qui était l'épouse du roi Assyrus. Mais que, compte tenu de... Elle a eu une attitude qui n'a pas plu au roi. Elle a une attitude qui n'a pas honoré, glorifié le roi, qui avait pourtant besoin d'elle pour la présenter à sa cour, tellement il était fier de sa reine. Mais elle a eu une attitude d'insoumission, on va dire ça comme ça, ou même, moi je dirais, elle a eu un manque d'intelligence qui lui a valu, qui lui a coûté sa place de reine, puisqu'elle a été répudiée, et cela a laissé une place ouverte. Et le roi a été en... une obligation de se chercher une autre reine. Et c'est dans ce contexte qu'il est donc annoncé dans le peuple que le roi se cherchait une reine et qu'une sélection allait se faire. Et c'est dans ce contexte que Mardoché, qui était l'oncle qui avait adopté Esther et qui était quotidiennement à la porte du roi, c'est-à-dire il avait des fonctions, quand on dit quelqu'un à la porte du palais, etc. Et surtout quelqu'un d'une nation soumise, c'est-à-dire rendue esclave. C'est des gens qui s'occupent, qui n'ont pas une fonction de haute autorité. C'est des personnes qui s'occupent de basse besogne. Mais ce Mardoché était là dans ce contexte. Mais Mardoché avait peut-être une fonction de basse besogne, mais c'était un descendant du peuple de Dieu, venu en exil, pris en exil par le roi Nebuchadnezzar, et qui se retrouvait dans une contrée loin de la contrée de Judée. Mais il avait en lui un esprit de Dieu, une intelligence. Donc quand il a appris ça, il a vite saisi, il a vite compris l'opportunité qui était donnée à sa nièce, qui était belle et qui était une fille de race. Lui seul savait qui était Esther. Il a dit, voilà une opportunité pour ma fille. Et c'est ainsi qu'intelligemment, il a dit à sa fille, tu vas aller te présenter, mais ne décline pas ton identité et ne dis jamais que je suis ton oncle. Va te présenter, ils te prendront pour une fille de Suse et tu auras tes chances d'être prise comme reine. Garde ton attitude, garde l'éducation que je t'ai donnée et par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Et c'est ainsi que Esther est allée parmi ces femmes. Le livre, le deuxième chapitre, troisième chapitre, nous parle de comment est-ce que la sélection se passait, comment est-ce qu'on préparait ces reines, etc. Et quelque chose m'avait quand même marqué quand je lisais ce livre, même depuis longtemps, c'est la sélection d'Esther. Beaucoup de jeunes filles préparées, quand leur tour de passer dans la chambre de roi était arrivé, on nous décrit que on traversait tout le palais et particulièrement on traversait la salle du trésor. Et la plupart des femmes, on leur disait, des filles, on leur disait, oh, prends ce qu'il faut prendre. Prenez ce que vous voulez. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles arrivées dans ce temps perdaient la tête, se chargeaient, avaient envie de tout prendre. C'est très humain, ça. On te fait passer par une salle de trésor là où il y a plein de choses, des bijoux, des machins. On te dit, prends ce que tu veux. La nature humaine, gourmande comme elle est, veut qu'on se... Enfin, vraiment, on regrette même d'en avoir pas apporté des valises pour ramasser ce que l'on veut ramasser. Mais quand est venu le tour et elles allaient dans la chambre du roi et le lendemain, elles ne restaient pas. Elles n'avaient pas été choisies par le roi. Est-ce que ça a un impact? J'en sais rien. Mais toujours est-il que ça a attiré mon attention. Et quand est venu le tour d'Esther, et ça on peut le lire dans le chapitre 2 à partir du verset 15. Quand est venu le tour d'Esther, il est dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Haggai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient, tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Et le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux princes, provinces, et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Dans cette partie que nous avons lue, nous voyons que contrairement aux autres jeunes filles, il nous est précisé ici que Esther, en traversant donc la salle de trésor, ne demanda que ce qui fut désigné par Haggai. l'eunuque du roi qui s'occupait des femmes. Ça veut dire que Esther était une femme obéissante déjà, soumise, oui, et vraiment attachée à la vision du mentor. Elle s'arrangeait toujours à avoir un mentor. Tous ceux qui étaient mis à ses côtés pour la conduire en quelque sorte, pour l'aider, elle vraiment s'attachait dans un mentorat sûr. Quand elle était chez Mardoché, Mardoché lui donnait des instructions. C'était une fille obéissante, lui a donné une bonne éducation. Mais elle a pris Mardoché vraiment pour un mentor. Tout ce que Mardoché disait, elle le prenait vraiment à cœur. De même que l'eunuque du roi, Agaï, qui a été mis pour le contrôle des femmes. Elle a trouvé grâce à ses yeux, dans sa nature d'obéissance. Parce que tout ce que Agaï lui demandait de faire, elle le faisait. Et quand elle est passée dans la salle du trésor, elle était même prête à ne rien prendre du tout. La parole nous dit qu'elle n'a pris, elle n'a que ce que Agaï lui disait de prendre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'eunuque qui s'occupait des femmes savait en fait, connaissait bien son roi et savait en fait ce qui était attendu. Quels sont les critères que l'on veut voir dans la future reine? Quelles sont les attentes du roi? Et je suis sûre que ce n'est pas, il n'a pas fait ça simplement par rapport à... Il a donné la possibilité à toutes les filles de pouvoir révéler leur propre nature. J'imagine une autre qui est passée avant, qui n'a pas eu l'éducation d'Esther ou qui n'a pas eu le cœur d'Esther à ce mentorat, à l'écoute de ceux qui étaient là pour l'aider et pour la guider. Il a dû dire à une autre fille, en passant à la salle de trésor, ne prenez pas ça, prenez juste ça. Et la fille a dû lui dire que, hey, mon ami, on me dit de prendre ce que je veux, toi tu veux me limiter? Tu veux limiter ce que je veux prendre? Toi tu me dis de prendre ça? Non, moi c'est ça qui me plaît. Le gros collier là, c'est ça qui me plaît. Ce beau tissu là, paré d'or, c'est ça qui me plaît. Mais Esther, on dit qu'elle n'a pris que ce que Agaï lui a dit de prendre. Donc, Agaï lui a donné des conseils judicieux pour qu'elle puisse entrer dans la chambre du roi et être couronnée. Entrer dans la chambre du roi et plaire au roi. Entrer dans la chambre du roi en remplissant les critères qu'attendait le roi. Et elle a été obéissante. Et ça lui a valu d'être reine. Alléluia. Que chacun de nous en soyons un. Vraiment édifié. Que nous méditons sur ce genre de choses. Amen. Je vais passer. Et voilà ainsi, Esther est reine. Mais on n'entend plus parler d'Esther. Elle est dans cet appartement de reine. Elle vit sa vie de reine. Avec des lois du pays. Et le roi n'était pas quelqu'un qu'on voyait tout le temps. C'était son époux. Mais elle ne pouvait voir le roi que quand le roi le désirait. La loi, il y avait des lois qui interdisaient même de s'approcher tant qu'on ne t'a pas appelé de la cour du roi. Donc Esther vivait dans ses appartements, menait sa vie jusqu'au moment où le roi devait l'appeler. La preuve, c'est que plus tard, elle dira à Mardoché, « Je n'ai pas vu, le roi ne m'a pas appelé depuis 30 jours. Donc vraiment, c'est difficile pour moi de pouvoir l'approcher. » Nous reviendrons dessus. Amen. Donc voilà le contexte dans lequel nous évoluons. Nous entrons donc maintenant dans le contexte qui nous intéresse.